Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro avec vous pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M, une émission chargée aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Donc, en deuxième partie d'émission, on parle encore une fois, et oui, de l'adoption de saines habitudes de vie. Bien, encore parce que, d'une part, c'est important d'aborder ce sujet-là, mais aussi parce que, il faut se l'avouer, c'est difficile. C'est un défi de tous les jours pour bien des personnes d'adopter de saines habitudes de vie. Et parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et de plus en plus, les communautés sont sensibilisées à ce besoin, les municipalités également. D'ailleurs, c'est le cas de la ville de Longueuil qui dévoilait vendredi dernier sa toute première, toute nouvelle politique en saines habitudes de vie. Et avec cette politique, ce que l'on souhaite, c'est proposer aux Longueuillois, Longueuilloises, d'innover, de faciliter l'accès à un mode de vie sain, un mode de vie actif. J'en parlerai tout à l'heure avec la mairesse de la ville de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire. Aussi, je pense qu'il faut se l'avouer, hein, on est plusieurs à être fascinés par l'espace, par cet environnement si présent, hein, au fond, dans notre quotidien. Là, on a besoin de ces notions-là tous les jours, mais en même temps, c'est un monde qui est intangible, qui est difficile à saisir et qui fait beaucoup appel à notre imaginaire. Et lorsque l'un des nôtres accède à cet espace, bien, on est fiers et c'est assez légitime. Ce sera le cas de l'astronaute québécois David Saint-Jacques, prochain Canadien donc à atteindre la Station spatiale internationale en novembre 2018 à bord de la fusée russe Soyouz. David Saint-Jacques, eh bien, c'est un ingénieur, il est astrophysicien, médecin et d'ailleurs c'est lui qui sera en charge d'assurer la santé des astronautes pendant ces 6 mois à la Station spatiale internationale. Moyen défi, disons, et on lui parle à l'instant à David Saint-Jacques. David Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Ça va très bien vous-même?
C'est une très bonne journée.
Un plaisir de vous parler réellement, David. Très heureuse que vous ayez eu un petit trou pour nous parler parce qu'on sait que vous êtes en préparation pour ce départ novembre 2018 pour l'agence, la Station spatiale internationale plus tôt. David, vous avez un parcours extrêmement riche, très complet, qui vous a permis de réaliser ce rêve d'enfance, celui de devenir astronaute et d'aller dans l'espace. Donc, vous avez plusieurs expertises, mais aujourd'hui, je m'intéresse à votre parcours de médecin. Vous avez pratiqué la médecine dans le Grand Nord québécois, plus précisément au Nunavik, également dans les camps palestiniens au Liban, après les événements du 9/11. Comment ces expériences-là, ce parcours, ces connaissances vont pouvoir nourrir cette mission, autant dans la préparation que sur place là, dans 2 ans?
Effectivement, c'est une des grandes richesses dans ma vie, là, cette chance-là que j'ai eue de travailler dans le monde médical et surtout dans des environnements un peu austères ou avec peu de ressources. Je pense que même si je m'en rendais pas compte à l'époque, c'est comme déjà un pré-entraînement dans l'art de se débrouiller avec ce qu'on a et de prendre ses responsabilités.
Oui. D'ailleurs, David, vous associez souvent la pratique médicale en communauté éloignée, comme vous l'avez effectué là, lors de ces missions en communauté dans le Grand Nord québécois, là, au Nunavik, et à celle de l'espace. Pourquoi il y a cette espèce de parallèle-là qui se fait pour vous?
Alors ça, en fait, c'est très simple. C'est que c'est le même problème qu'on a à résoudre dans les deux cas. C'est-à-dire s'occuper de la santé des gens qui vivent très, très loin d'hôpitaux ou de centres tertiaires ou de spécialistes. Donc, qu'on soit dans un petit village sur la baie du Son ou à bord de notre Station spatiale internationale, on a très peu de ressources. Il faut réfléchir longtemps d'avance à ce qu'on va amener avec nous au cas où. On ne peut pas tout amener. On ne peut pas avoir un bloc chirurgical avec nous, par exemple. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on veut pouvoir traiter. Une fois qu'on est sur place, il faut avoir des technologies qui nous permettent de demander des conseils, au moins peut-être avoir ce qu'on appelle de la télémédecine, c'est-à-dire, par exemple, avoir un collègue plus spécialisé qui nous guide dans l'utilisation de la machine échographie, par exemple. C'est tout ce qui se développe pour aider les astronautes à rester en santé s'applique directement à la pratique médicale en région éloignée. Alors, pour moi, c'est un de mes dadas, si on veut, d'avoir la chance de participer à ça pendant que je serai à bord.
Et, bon, d'ailleurs, dans 2 ans, lorsque vous serez à la Station spatiale internationale, est-ce que c'est vous qui va être amené ou responsable des soins auprès de vos collègues?
Oui, il y a toujours à bord ce qu'on appelle un officier médical. Mm-hmm. C'est pas toujours un médecin à bord, mais il y a toujours quelqu'un qui reçoit une formation supplémentaire. Mais puisque moi, je suis déjà médecin, ça a des fortes chances que ce soit moi qui ait ce rôle-là. Il faut bien réaliser que tous les astronautes reçoivent une formation de médecine d'urgence de base. Hein.
Okay.
C'est pas une formation standard, mais c'est bon, on essaie d'en faire un peu comme des ambulanciers, si on veut, mm-hmm. capables de faire les premiers gestes qui sauvent la vie, capables d'assurer les soins d'extrême urgence. Donc, tout le monde reçoit ce niveau-là. Également en médecine dentaire, en passant, pour répondre aux urgences
oui.
dentaires.
Ben ouais. oui. Qu'est-ce qui change? Quelles sont les données qui changent de pratiquer la médecine sur Terre et dans l'espace?
Alors, il y a l'isolation, mais ça, comme je vous le disais plus tôt, on peut oublier.
David, vous êtes encore là?
Entendez-vous?
Oui. Allô? Oui,
oui.
Okay. Ça a coupé okay. un peu. Oui, continuez.
Ah, OK. Non, je reprends. Donc, effectivement, il y a l'isolation qui a un parallèle sur Terre. Mais ce qui est très différent, c'est l'environnement dans lequel on est. Alors, vraiment, un environnement avec beaucoup de radiation. Ça, ouais. à long terme, ça peut être une source d'un risque de cancer. Mais c'est surtout l'absence de gravité, l'absence des effets de gravité qui est d'abord, c'est quelque chose, en guillemets, c'est le fun, parce qu'on ouais. flotte, ouais. mais c'est pas très bon pour la santé, malheureusement. On a évolué sur Terre, les êtres humains, pendant des milliers, des millions d'années en présence ouais. de la gravité. Et lorsqu'on enlève l'effet de la gravité, tous les systèmes de notre organisme s'en ressentissent. Alors, par exemple, notre corps est assez conservateur. Si tout est très léger, soudainement, on n'a pas besoin d'avoir des os très solides ou d'avoir des muscles très forts. Et tout mm-hmm. ça disparaît. Et ensuite, notre système cardiovasculaire est un peu débalancé par le fait qu'il n'y a pas... soudainement, il n'y a plus d'aide pour envoyer du sang aux pieds.
Ah, donc, oui, pour, hein?
Oui, hein, c'est ça. Par exemple, par contre, on est habitué à pousser plus fort pour envoyer du sang à la tête, mais là, en absence de gravité, ça ne marche plus. Il faut enlever ce billet-là. Il y a des problèmes avec le système immunitaire qui sont un peu mystérieux toujours, des problèmes avec le système visuel aussi qui sont mystérieux, des problèmes évidemment du système de l'équilibre qu'on doit pleinement débrancher le système de l'équilibre en l'absence de gravité. Donc, c'est difficile de s'adapter à l'absence de gravité. Ça prend quelques jours, quelques semaines, selon les gens. Et ça vous, c'est encore pire de se réadapter à la gravité une fois le retour sur Terre. Alors, il y a plein de problèmes ça cause plein de problèmes de santé aux astronautes. Et ce qui est intéressant, ce qui est une opportunité pour la recherche médicale, c'est que tous ces problèmes de santé qui affectent les astronautes, ça ressemble à des vraies maladies.
Mm-hmm, mm-hmm. Donc, pour vous, c'est une opportunité aussi d'aller faire ces expériences médicales dans l'espace et de ramener une certaine forme d'expertise après votre retour ici sur Terre.
Oui, par exemple, je dirais plein d'exemples au hasard, mais par exemple, il y a une expérience à bord où on regarde les effets de la pesanteur sur la moelle osseuse.
Mm-hmm.
Hein, parce que, soudainement, quand il n'y a pas de gravité, quand il n'y a pas de stress sur les os, on se rend compte que la moelle osseuse devient un peu paresseuse et les astronautes deviennent tous un peu anémiques. Et on se rend compte que ça ressemble à un problème qui afflige les gens qui sont couchés, alités longtemps à l'hôpital sur Terre.
Ah oui.
Mais c'est difficile de l'étudier sur Terre parce que c'est toujours des gens très malades.
Oui, oui.
Mais dans l'espace, c'est sur des astronautes jeunes, en parfaite santé. C'est très facile, de manière isolée, d'étudier ce phénomène-là et de le comprendre de manière beaucoup plus efficace. Et donc, c'est un exemple d'une application là où ça vaut vraiment la peine de faire de la recherche médicale en orbite. C'est comme le sujet d'étude parfait.
Oui.
Et c'est la spécialité du Canada.
Oui, en plus, ça peut être une fierté pour nous, ça.
Oui, effectivement. C'est comme une niche de la recherche en orbite du Canada. On fait surtout de la recherche à caractère médical. Donc, mm-hmm. ça, c'est un côté, le fait que les problèmes que développent les astronautes ressemblent à des maladies. Il y a le côté télémédecine, dont on en a parlé plus tôt, qui est comment assurer, sur un point de vue technologique, comment aider le médecin qui est à bord. Ça ressemble au problème qu'on a beaucoup au Canada d'aider les infirmières ou les médecins qui sont isolés là, dans des petites communautés. Oui. Ça, c'est la même chose. Donc, c'est comme deux pans là, de la recherche médicale qui m'intéresse particulièrement.
Et j'imagine qu'une fois sur place, à la Station spatiale internationale, les habitudes de vie changent un peu, David. C'est-à-dire que le sommeil ou la nourriture, là, ça ne doit pas se passer de la même façon.
Oui, toute la vie est différente. Dès qu'on enlève les effets de la gravité, c'est ouais. assez surprenant tout ce qui change. Hein. Juste imaginez comment, par exemple, comment se laver.
Oui.
Oui. Comment se laver? On ne peut pas prendre de douche, là. Il faudrait courir après l'eau avec un aspirateur. Pas nulle part. Bon, on se lave un peu à la débarbouillette, là, comme on laverait un nouveau-né. Comment aller à la toilette?
Oui.
On fait, hein? C'est comme uriner dans un aspirateur. Je vous laisse imaginer le reste.
Oui.
Après ça, on ne peut pas se permettre de jeter toute cette eau-là. Alors, on a une immense machine qui recycle notre urine, qui recycle notre respiration, qui recycle notre sueur, qui recycle toute l'eau qui est à bord. Un peu comme la planète Terre le fait pour nous. Hein. Toute l'eau qu'on boit chaque jour, c'est de la vieille eau. Il n'y a pas de nouvelle eau sur Terre, mais sur des millions d'années, c'est recyclé par Mère Nature. On reproduit ça avec des machines en orbite. Comment dormir dans l'espace? Si on se met dans un lit, on va flotter, on va en sortir. Donc, on s'attache au mur dans un sac de couchage. Il y a plein de détails pratiques qu'on a changé. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, évidemment, la capacité d'adaptation de l'être humain, c'est extraordinaire. Et après quelques jours, on est devenu des habitants de l'antique, des habitants d'un monde sans gravité. Un autre détail amusant, évidemment, on ne peut pas marcher en orbite, hein, parce qu'on flotte. Alors, on se déplace avec nos mains.
Ah oui, OK, ouais, sur les mains.
Oui, c'est comme c'est l'escalade. On agrippe des poignets, puis on se déplace comme ça, et on sert dans nos pieds pour transporter les objets. On inverse le rôle de nos membres.
C'est fascinant, David Saint-Jacques, de vous entendre. Maintenant, bon, vous allez partir très bientôt là, pour cet entraînement, 2 ans d'entraînement avant de quitter à bord de Soyouz pour la Station spatiale internationale. En quoi consiste cet entraînement? Parce qu'on le comprend, David, lorsqu'on vous écoute, ça prend une santé de fer pour aller dans l'espace.
Oui, effectivement, on faut partir. Vu que c'est pas très bon pour la santé, il faut partir le plus fort possible.
Oui.
Tant physiquement que psychologiquement, mais surtout techniquement. C'est quand même dangereux ce qu'on fait là-haut. Le défi principal, ça reste un défi technique. Alors, quand on parle d'entraînement, il ne faut pas juste penser au gymnase, c'est plutôt penser plutôt à une salle de cours ou un simulateur où on pratique les procédures d'urgence. Moi, dans mon cas, ce qui va m'occuper beaucoup dans les prochaines 2 ans et demi à venir, c'est que je vais être le copilote de la fusée Soyouz qui va nous amener à bord. Donc, je dois aller à l'Est des Étoiles, qui est le nom du centre d'entraînement russe pour astronautes à Star City, donc près de Moscou, et pour suivre en russe les cours de formation de pilotage de la fusée Soyouz. Ça va être à peu près la moitié de mon temps, de mon horaire là, d'ici le décollage. Après ça, bien, toutes les expériences scientifiques que je devrais mener à bord sont pas encore très bien définies, mais à mesure que le temps passe et que le décollage va s'approcher, ça va être de plus en plus clair. Et ces expériences-là, bien, je devrais rencontrer les scientifiques qui sont derrière, les comprendre, les pratiquer, comprendre l'équipement. Puis après ça, bien, une fois que l'équipage sera nommé au complet, on devra tous ensemble s'entraîner aux procédures d'urgence. Puis ça, c'est une autre grosse partie d'entraînement. Donc, ça va se faire prochaines 2 années et demie, un peu autour du monde, entre Houston, où il y a la NASA, à Moscou, pour l'agence spatiale russe, au Japon, en Allemagne, pour l'agence spatiale européenne, et puis ici au Canada, pour l'agence spatiale canadienne.
Et tout ça, David, avec une attention particulière à votre santé, parce que d'ici 2 ans, évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer, et c'est quand même une valeur assez importante pour pouvoir effectuer ce fameux départ-là.
Ah, c'est notre... pas seulement pour l'astronaute, hein, pour tout le monde,
oui.
C'est notre trésor. Notre corps, c'est notre outil principal, c'est notre plus grande ressource. Donc, si je m'épuise, je me fatigue, je me fais mal ou je tombe malade, je viens de me tirer dans le pied. Hein. Il n'y a pas question. Et d'ailleurs, pour un astronaute, c'est encore peut-être plus vrai parce qu'on a à chaque année à passer un examen médical absolument sans pitié.
Avec des analyses sanguines, j'imagine.
Des analyses sanguines, des tests, des scans, tout ce que vous pouvez imaginer.
Ouais.
Un test athlétique aussi pour vérifier qu'on est capable de supporter le stress du décollage et de la vie en orbite. Et donc, c'est un peu l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de chaque astronaute à chaque année. la possibilité, qui ça existe toujours, d'être disqualifié pour raison médicale. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement attentif à notre santé.
En terminant, David Saint-Jacques, avez-vous des trucs, des façons de gérer ce stress? Parce que j'imagine que oui, il y a une pression. Tous les yeux, non seulement ici au Québec, au Canada, mais du monde, sont en ce moment arrivés sur vous et cette mission.
Ah, il faut apprendre à... cliver dans sa tête. Il faut apprendre à se dire, ben, coudonc, je vis dans un aquarium, mais voilà, je suis comme je suis, là. Je fais, moi, mon rôle, c'est tellement possible. Je ne peux pas faire plus que mon possible. Puis, je vais faire des erreurs, mais voilà, si je fais des erreurs, ça va arriver. Tout le monde va le savoir. Ben, je vais m'excuser, puis je vais me reprendre.
Ouais. C'est une grande.
C'est le ouais, trac qui est notre ennemi, notre pire ennemi, dans le fond.
Oui, et en même temps, un très bon moteur.
Un très bon moteur, parce que, et ça, je le dis souvent aux gens, une chose que j'ai appris, moi, j'ai toujours peur. Je suis constamment très, très conscient des dangers, conscient des défis, et j'ai le trac, j'ai peur, mais pour moi, la peur, c'est juste un signe qu'on est lucide et qu'on réalise qu'il y a quelque chose de difficile ou de dangereux qui s'en vient.
Oui.
C'est pas une raison de pas le faire, la peur. La peur, c'est juste une raison de porter attention. C'est comme un signal d'alarme qui dit là, faut focusser sur ce qui s'en vient. Donc, une mission spatiale, bien, évidemment, je serais bien naïf si j'avais pas peur de ça. Hein?
Oui.
C'est évidemment dangereux. Alors, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que je m'attelle dans les prochaines années à étudier, à me pratiquer, à m'entraîner pour le jour du décollage, être en pleine confiance que je suis en pleine possession des moyens et je suis quand même en affaire.
Et à travers ces années, vous continuerez à nous inspirer, David Saint-Jacques. Je ne sais pas si on se reparlera d'ici novembre 2018, mais je vous souhaite un très, très bon voyage à bord de Soyouz et à la Station spatiale internationale.
Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir si on peut se revoir, puis peut-être même en personne, qui sait.
Qui sait? Ce sera un grand plaisir, un grand honneur. Merci, David Saint-Jacques.
Bye-bye, bonne journée.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Caroline Saint-Hilaire, bonjour.
Bonjour.
Les Longueuillois et Longueuilloises peuvent maintenant se targuer, grâce à vous et à votre équipe, d'avoir une politique en saines habitudes de vie, et ce depuis vendredi dernier. Pourquoi c'était important pour vous de mettre ce projet de l'avant?
Bien, en fait, pour plusieurs raisons, je vous dirais que c'est une suite logique là, de l'adoption qu'on avait faite d'un plan stratégique de développement durable. Et notre population nous demandait justement là, qu'on puisse offrir davantage, autant au niveau des infrastructures que d'événements, que d'activités, de faire en sorte justement qu'on puisse un peu là, donner du concret quand on parle de saines habitudes de vie. C'est ce qu'on a fait, même au niveau des fonctionnaires, au niveau de l'appareil de la ville de Longueuil, parce que chacun propose des idées, chacun dans leur domaine, mais il fallait faire plus. Comment on peut faire pour que les citoyens, dans le fond, aient envie de développer des habitudes qu'on appelle de saines habitudes de vie? Donc, on a fait ça avec des familles de Longueuil, on a fait ça avec des organismes, on a fait ça avec des fonctionnaires et on l'a adopté dans le cadre du Conseil de ville la semaine dernière et nous en sommes très fiers.
Oui. La mission ou peut-être les motivations derrière cette politique, c'est d'influencer les comportements des individus. C'est quand même un grand défi, ça, Caroline Saint-Hilaire. On commence, j'imagine, une petite bouchée à la fois.
Oui, c'est vrai. Et puis j'aime le répéter, on parle d'habitude. Hein, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que ça devienne des habitudes. Que ce soit pour s'en rendre au travail, comment on peut faire pour que nos pistes cyclables, le transport en commun, le transport actif, comment on peut faire pour que le citoyen ait envie, justement, de faire un effort pour se remettre en forme? Comment on peut faire au niveau de l'administration pour que, par exemple, nos centres sportifs, les arénas, les piscines puissent avoir des concessions avec l'alimentation un petit peu plus saine. Donc, on travaille vraiment là, de tous les niveaux. C'est vraiment horizontal. Oui, c'est une grande ambition, c'est un grand défi, mais on y va petit pas par petit pas. Et je vous dirais que moi, ce que j'ai vu dimanche, parce que c'était la concrétisation là, déjà d'un événement important, le premier marathon de Longueuil,
oui.
Et ce que j'ai vu dans ma ville, c'est des gens qui ont le goût de ça. Hein, on le voit, là, il y a de plus en plus de gens qui font de la course et de plus en plus de femmes en plus, j'ose le préciser, de plus en plus de gens qui marchent, de plus en plus de gens qui font du vélo. Et c'est ça qu'ils nous demandent aux citoyens. Ils veulent qu'on ait des infrastructures qui répondent à leurs besoins. Alors, j'ai comme l'impression qu'on a répondu à une grande préoccupation citoyenne.
Oui, vous êtes à la bonne place au bon moment. Et bien sûr, ce désir de mettre de l'avant cette politique anciennes habitudes de vie, elle vient de constat. Vous parliez tout à l'heure, Mme Saint-Hilaire, du déplacement actif, c'est important pour vous. Et on le remarque, d'après les statistiques, la culture de déplacement dans la ville de Longueuil, c'est beaucoup la voiture en premier lieu.
Oui, c'est vrai. Ça va changer sur du long terme, c'est certain. Il y a beaucoup de gens de Longueuil qui travaillent à Montréal ou qui travaillent avec des horaires atypiques, donc c'est pas toujours simple. Bon, il y a la conciliation travail-famille. Je peux comprendre que pour une maman monoparentale ou même une mère de famille, d'aller porter les enfants à la garderie, d'aller travailler, bon, c'est sûr qu'on voudrait tous venir en marchant et courir pour aller travailler, mais c'est pas toujours faisable. On le fait pour certaines personnes, si ça fonctionne, tant mieux. Il faut développer aussi d'autres réflexes. Par exemple, nos bains libres maintenant sur notre territoire sont gratuits. Alors, ça encourage justement la famille à pouvoir à utiliser nos bains libres. Donc, il y a plein de mesures comme ça. On va pas changer tous les comportements de tout le monde en même temps, mais si moi je suis arrivée à faire 30 minutes à une heure d'exercice par jour, oui, je pense qu'on peut tous y arriver. Et je voudrais plus que ça, je pense que tout le monde qui a commencé à le faire un petit peu se rend compte des bénéfices. Alors oui, on est plus performant, on est plus équilibré dans nos sauts d'humeur, dans notre façon de travailler. Donc, il y a plein d'avantages. On désengorge le système de santé. Alors, je pense qu'on fait une contribution à l'ensemble de notre société. C'est pas banal. Donc, il faut voir ça comme un élément profitable à l'ensemble de la société.
Évidemment, en tant que mairesse de Longueuil, en effet, vous devez être un petit peu un porte-étendard de cette politique-là. En quoi le monde municipal peut avoir des impacts en matière de saines habitudes de vie pour les populations?
Bien, en fait, je pense qu'on est le gouvernement le mieux placé, pardon. Premièrement, on est un gouvernement de proximité. Oui. C'est nous qui offrons justement toutes les activités, autant culturelles, mais sportives, de loisirs. C'est nous qui investissons dans nos parcs. C'est nous qui investissons dans nos pistes cyclables. Donc, je pense qu'on est le premier gouvernement qui peut faire quelque chose de différent. Je rencontrais Sylvie Bernier, justement, avec Québec en forme. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous savez, peut-être vous ou moi, peut-être que je suis un petit peu plus vieille, là, mais on se rendait à l'école à pied. Maintenant, la plupart des enfants, on va les reconduire à l'école ou ils prennent le transport. Donc, il faut qu'on revienne à des habitudes de dire, ben oui, il faut que ça soit facile pour mon enfant de marcher dans la rue. Il faut développer des façons d'agir. Et c'est pour ça qu'on a impliqué l'ensemble des directions de la ville de Longueuil, pas juste la direction du loisir. Ça concerne tout le monde. Quand je fais une rue, est-ce que je la fais en fonction justement de rendre accessible autant le vélo, le piéton, les personnes âgées, les enfants? Donc, c'est vraiment une façon de développer notre ville. Ça touche pas juste de dire, ben oui, je fais un marathon le dimanche, une fois par année. Oui, non. Oui. Je développe ma ville en fonction de créer un sentiment là, d'avoir le goût d'utiliser les équipements sportifs.
Ce qui me plaît dans cette politique, Caroline Saint-Hilaire, c'est que, comme vous venez de le mentionner, vous visez à joindre tout le monde, les familles, les enfants, les personnes âgées. Avez-vous une petite pensée pour les personnes en situation de handicap?
Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, je suis particulièrement fière parce que moi-même, je suis déficiente auditive. Donc, on a fait un aménagement au niveau de l'hôtel de ville parce que c'est quand même incroyable. C'est la maison du citoyen qui n'était pas nécessairement accessible au niveau des handicapés visuels. Donc, on a fait beaucoup d'investissements autour de l'hôtel de ville justement pour rendre accessible. On peut encore faire mieux, ça, je vous le conseille. Mais aussi au niveau des parcs, des animations au niveau des camps pour nos enfants autistes, des choses comme ça. Alors oui, vraiment, c'est pour toutes les clientèles. Et c'est ça le défi, en fait, parce que je le dis souvent, on ne choisit pas une ville en fonction de la qualité des nids de poules. On choisit, parce qu'on en a partout au Québec, hein, c'est un combat perdu. Oui. On va choisir une ville en fonction de sa qualité de vie et honnêtement, les saines habitudes de vie en font partie.
Oui. Le plan d'action, en fait, plutôt la politique s'accompagne d'un plan d'action, 50 activités, des projets structurants, des idées novatrices. J'aimerais concrètement vous entendre parler de ces projets-là, un petit peu pour donner l'eau à la bouche, oui, d'une part à vos citoyens, Caroline Saint-Hilaire, mais aussi peut-être, hein, Canal M est diffusé partout au Québec, à d'autres maires et mairesses ailleurs en province.
De faire pareil, ben oui, tout à fait. En fait, on essaie premier de donner le goût. Mais en fait, je dirais qu'en fin de semaine, déjà, ça a commencé justement en lançant cette politique-là. On a fait un 36 heures en action où on a eu un salon, justement, des saines habitudes de vie. On a eu le marathon de Longueuil dimanche qui a été un succès. Écoutez, on pensait avoir 1500 inscriptions. Finalement, on a eu 3200, donc un gros succès. Coureurs-marcheurs, donc les deux étaient possibles. On a aussi, pour la première fois, le Tour de l'île de Montréal s'en vient à Longueuil pour la moitié du parcours. Comme je le disais, on a les bains libres. On a la plage municipale de Longueuil, parce que c'est quand même incroyable. Tout le monde sait que Longueuil est sur la rive sud de Montréal. On est aux abords du fleuve, mais les citoyens de Longueuil n'ont jamais eu accès, en tout cas depuis très longtemps, au fleuve. Et là, avec la plage municipale, on est en train de redonner l'accès au fleuve. On a fait des investissements importants au niveau des pistes cyclables, notamment, encore une fois, au bord du fleuve. Donc, il y a le marché public aussi. On parle des saines habitudes de vie. La plupart des gens ne savent peut-être pas, mais Longueuil est, oui, une ville urbaine, mais le tiers de notre territoire, de l'agglomération, est zonée agricole. On a une forte richesse agricole, mais on n'avait pas d'endroit justement pour mettre en valeur nos produits. Et maintenant, on a un marché public ouvert à l'année. Donc, on sait maintenant ce qu'il y a dans notre assiette quand on va au marché public de Longueuil. Donc, c'est toutes des choses là qui me viennent en tête au niveau des actions concrètes. Là, parce qu'on voulait pas que ce soit un rapport, on jase de choses, puis on tablette. Non, on veut que ça devienne notre bim, justement, pour faire en sorte que les gens aient le goût de créer de nouvelles habitudes.
Ouais, et ça, c'est une façon aussi pour vos citoyens, citoyennes, de se réapproprier leur espace, de reprendre possession de ces lieux, les parcs, les arénas, tout ce qui est le fleuve, comme vous le disiez si bien, et de créer des liens aussi. Et ça aussi, c'est la santé, tout ce qui est le réseau social, le tissu social.
Absolument. Vous avez tellement raison. Je pense notamment, on essaie maintenant, quand on développe un parc, on regarde le secteur, on le fait avec la communauté. Bon, on sait que notre population est vieillissante. Donc, il y a des secteurs de parcs qu'on peut installer des jeux d'enfants parce que le secteur a vieilli. Et là, on change les équipements et on met des équipements pour des personnes plus âgées. Et ça fait justement bien, qu'au lieu de se tenir au centre d'achat, bien, on s'en va au parc, on prend un café, on prend un verre d'eau, peu importe. Et donc, on rencontre d'autres personnes et ça crée justement ce sentiment-là aussi de sécurité, ça ouais. sort de l'isolement. Donc oui, c'est fondamental.
Que du bon finalement derrière cette politique des saines habitudes de vie. D'ailleurs, merci d'en faire une priorité, Caroline Saint-Hilaire. On peut consulter cette politique à longueuil.québec/politique saines habitudes de vie. Vous avez gagné un prix tout dernièrement, Mme Saint-Hilaire.
Oui, pour le Francine Ruel-Jutras, oui, absolument.
Donc, pour la contribution au développement durable de la communauté, c'est remis par l'Union des municipalités du Québec. Ben, bravo à vous.
Ben, merci beaucoup. Ben, je partage ce prix-là avec les gens de Longueuil qui m'ont fait confiance déjà depuis, qui me font confiance en fait depuis 6 ans déjà. Donc, c'est partagé avec ma population.
Et vous vous laissez combien de temps pour continuer à mettre de l'avant les actions liées à la politique en saines habitudes de vie?
Je faisais la blague la semaine dernière en disant tant et aussi longtemps que toute la population de Longueuil ne sera pas inscrite au prochain marathon de Longueuil, on va continuer. Mais en fait, je, sérieusement, moi, tout ce que je veux, c'est que justement la santé se sente et se vive partout, que ce soit au niveau de notre communauté, mais aussi au plan individuel. Je sais que ça semble galvaudé, mais je pense que tout le monde qui a touché à ce 30 minutes par jour pour soi, à juste mettre des espadrilles, ça change la vie.
Oui. Caroline Saint-Hilaire, vous êtes mairesse de Longueuil. On vous souhaite une belle ville en santé.
Bien, merci. Au plaisir de vous rencontrer.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Jean-Sébastien La Liberté derrière sa console. Marianne Paquette au micro. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.